Compiègne.
Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne pour notre dernière émission avant la pause estivale. À l'approche des vacances, les magazines rivalisent déjà de sélections de lectures de plage, de romans à glisser dans la valise ou à lire entre deux baignades. Nous avons choisi une autre voie, pas forcément des livres supposés accompagner parfaitement un transat. Nous vous proposons simplement quelques très bonnes lectures. Des romans, des bandes dessinées qui nous ont captivés, surpris, émus ou tenus en haleine et qui méritent qu'on les mette en valeur où que l'on soit cet été. Au programme ce soir, Mother Naked de Glenn James Brown, un roman d'espionnage Gabriel Smoon de William Boyd, un thriller Baignade d'André A. Michaud, où il va bien être question de baignade, mais pas des plus idéales. Nous parlerons aussi de bande dessinée avec les deux coups de cœur de Jessie, Le partage des mondes d'Olivier Granson et Les jours sucrés de Loïc Clément et Anne Montel. Et pour compléter ces lectures, nous écouterons les deux nouveaux titres d'Iris Kochleff que nous avons le grand plaisir de recevoir aujourd'hui. Alors on va commencer avec un roman très original, l'histoire de Mother Naked de Glenn James Brown. Cette histoire nous est racontée sous la forme d'un discours prononcé devant une assemblée de convives. Son narrateur, un ménestrel. Nous sommes en 1434 à Durham dans le nord de l'Angleterre. Un banquet réunit les notables de la région. Tous attendent l'arrivée d'un ménestrel renommé. Mais ce n'est pas lui qui se présente. À sa place, un obscur musicien payé 4 pence seulement, le plus misérable cachet jamais retrouvé dans les archives du prieuré. Et son nom, Mother Naked. Et ce qu'il va raconter va captiver toute l'assemblée. Son récit remonte plusieurs décennies en arrière et il revient sur la disparition mystérieuse d'un village, Segerston. Là vivait la famille Payne, écrasée par des dettes, condamnée à un labeur sans fin et minée par les rivalités du voisinage. Une campagne anglaise ravagée par les impôts, les famines, la peur, la grande peste a décimé la population, l'Église exerce son emprise, les puissants imposent leurs lois et les serfs travaillent jusqu'à l'épuisement. Chacun lutte pour survivre et les rancœurs s'enveniment, les accusations circulent, puis viennent les morts et bientôt la rumeur d'un spectre qui rôde. Ce qui fascine d'emblée, c'est la manière dont l'histoire est racontée. Le ton est d'abord léger, presque naïf, un spectacle de troubadour. Puis peu à peu, le récit prend une autre dimension, jusqu'à stupéfier son auditoire. Et d'abord nous, lecteurs, sans cesse surpris par les rebondissements d'une intrigue qui prend toujours la direction la moins attendue. Et c'est à la fois angoissant et délectable. Puis les convives, qui passent du statut de simple spectateur à celui de témoins concernés, sidérés quand ils prennent la mesure de leur implication. La stratégie de ce conteur hors pair consiste à manœuvrer adroitement pour capter l'attention de son public et déjouer sa méfiance. Comme dans une enquête policière, il ménage le suspense, chaque révélation viendra en son heure. Et si chaque chapitre apporte une nouvelle révélation, chaque digression compte. Tandis que l'on sert aux convives du cuisseau de chevreuil rôti, il déroule l'enchaînement fatal qui a conduit le village à sa perte, avec toutes sortes de précautions oratoires très amusantes. Enfin pour nous, tant l'histoire risque de déplaire aux invités. Car à mesure que le vin coule et que les auditeurs s'abandonnent à l'ivresse, le ménestrel se fait de plus en plus mordant et son récit devient une critique féroce des puissants. Et lorsque Mother Naked lève enfin les derniers voiles de son histoire, on comprend que le véritable fantôme n'est pas celui que l'on croyait. Avec ce deuxième roman, Glenn James Brown réussit le tour de force de restituer avec une force saisissante la vie d'une communauté rurale médiévale, les travaux des champs, les fêtes, les croyances, les rivalités. Et surtout, il fait du Moyen-Âge un miroir de notre époque. Derrière les chansons de ménestrel se dessine un roman social qui interroge les inégalités, les rapports de domination et la manière dont les sociétés fabriquent leurs propres monstres. Moi qui ne suis pas du tout, mais pas, vraiment pas particulièrement attirée par les romans médiévaux, j'ai été complètement embarquée et j'ai lu ce livre comme un grand roman noir, une tragédie sociale fascinante, porté par une langue magnifique et une narration d'une efficacité redoutable.
Oh, ça donne vraiment envie, en fait. Ah non, moi, j'avoue que la partie médiévale n'est pas forcément ce que j'apprécie le plus. En ce qui me concerne, ces derniers temps, l'actualité nous ramène beaucoup au thème de l'enfance. Oui, ce que je veux dire. Et ça m'a donné envie de vous parler de deux bandes dessinées qui m'ont particulièrement touchée. Deux lectures très différentes, mais qui racontent, chacune à leur manière, ce moment étrange qu'est l'enfance. Ce moment où tout commence, et où, sans trop s'en rendre compte, tout se joue déjà un peu. La première, c'est « Les jours sucrés » de Clément Loïc et Anne Montel. On y suit une jeune femme qui revient dans son village d'enfance après la mort de son père. Elle hérite de sa pâtisserie qu'elle pensait vendre rapidement. Mais en retrouvant les lieux, les odeurs, les recettes, les souvenirs, c'est tout un passé qui remonte à la surface. C'est une BD tout en douceur, presque silencieuse parfois. Pas une grande histoire, des instants, des souvenirs, des sensations, des petits riens qui disent beaucoup. On est dans une enfance très intérieure, très sensorielle, des odeurs, la pâtisserie, des lumières, des moments suspendus. Et ce que j'ai aimé surtout, c'est que l'auteur ne cherche jamais à expliquer. Il montre, il suggère. Et ça fait remonter les choses, des souvenirs en nous, des impressions un peu floues. C'est le genre de lecture où on s'arrête, on relit une case, une ou deux, voire une page, et on se dit « Ah oui, moi aussi !» Mais c'est doux, pas naïf. Parce que derrière, il y a aussi des petits décalages, des fragilités, bref, une enfance qui n'est pas parfaite, mais profondément vivante. En parallèle, j'ai lu « Le partage des mondes » d'Olivier Granson. Vous allez voir, les choses, elles n'arrivent jamais par hasard. Et là, on change complètement d'énergie. L'histoire se déroule à Londres, pendant le Blitz, en 1940. Au milieu des bombardements, une petite fille et un vieil homme vont se rencontrer. Et l'imaginaire va devenir une façon de résister à la peur, de continuer à avancer malgré tout. C'est plus narratif, plus construit et en même temps très touchant comme livre. Parce qu'on parle d'une enfance, d'une enfant confrontée très tôt à la violence du monde et d'un adulte qui tente de lui transmettre autre chose que le désespoir. On est constamment entre plusieurs mondes, le réel, l'imaginaire, l'enfance, mais aussi ce qui vient après. C'est une BD sur les passages, les moments où on bascule, où on comprend que tout n'est pas simple, que le monde est plus vaste et parfois plus dur. Il y a quelque chose de plus frontal, de plus dur, parfois plus grave, mais aussi très juste, parce qu'on parle de choix, d'identité, de ce moment où on n'est pas tout à fait un enfant, mais pas encore vraiment autre chose. Ce que j'aime en mettant ces deux bandes dessinées en parallèle, c'est qu'elles parlent de la même chose, mais pas du même endroit. Les jours sucrés, c'est l'enfance qu'on garde en nous, les traces, les sensations. Le partage du monde, c'est l'enfance qu'on traverse, les étapes, les bouscules, les bascules. L'une regarde en arrière, l'autre est un mouvement, l'une est intime, l'autre est plus ouverte sur le monde. Et au fond, ça raconte peut-être la même chose, que l'enfance n'est pas juste un âge, c'est un territoire, un endroit où tout est plus fort, plus flou aussi, où on ressent sans toujours comprendre et qu'on passe notre vie après à essayer de comprendre et de mettre les mots là-dessus. Alors voilà, deux ambiances, mais une même question. Qu'est-ce qu'on garde de l'enfance et qu'est-ce qu'on en fait? Et si vous avez envie de lecture sensible, intelligente. Franchement, allez-y. Mais prévoyez un peu de temps après, une respiration pour digérer, parce que ce sont des BD qui restent et qui, mine de rien, vous remuent un peu plus que prévu. Alors moi, personnellement, les filles, j'ai versé mes quelques larmes. Parce que franchement, même si on n'est pas forcément touché, par exemple, par la guerre à Londres, il y a toujours des petites choses qui nous remontent à notre enfance, parce qu'on a tous subi des choses, des moments traumatisants, et du coup, ça nous fait remonter des petites émotions. Voilà.
Du coup, c'est une BD que tu conseillerais à partir de quel âge ?
Alors, quand même, il faut être bien un adolescent, puisque les deux parlent de sujets quand même très profonds. Donc, il y en a une qui est sur le deuil. Enfin, les deux sont sur le deuil, hein, parce que l'histoire à Londres, le vieil homme n'a plus de famille et la petite fille devient orpheline. Donc, ils se retrouvent tous les deux. Donc, les deux, il faut quand même avoir un peu digéré son enfance, je pense, quand même. Mais à lire, par contre, à tout âge, en tant qu'adulte, avant de devenir maman et après être devenue maman, la résonance, je pense, elle n'est pas la même.
D'accord.
Voilà, désolée, j'ai plombé un peu l'ambiance.
Alors, changement de registre avec Gabriel Smoon. C'est le 18e roman de William Boyd. Un de ses plus grands succès, c'était Un Anglais sous les tropiques. Il a été assez connu pour celui-là. Et là, Gabriel Smoon. Donc, on va suivre Gabriel Dax. C'est un écrivain, voyageur, et qui réalise également des reportages pour un journal anglais. En 1960... Alors qu'il se trouve à Léopoldville, en vue d'un article sur le fleuve Congo, il a l'opportunité de mener un entretien avec Patrice Lumumba. Et quelques semaines plus tard, le dirigeant congolais est assassiné. De retour à Londres, Gabriel est approché par une mystérieuse femme, Faith Green, qu'il reconnaît pour l'avoir déjà croisée dans l'avion en train de lire un de ses propres livres. Il s'avère qu'elle travaille pour le MI6 et lui demande de rendre quelques services, bien rémunérés, mais apparemment anodins. Livrer un courrier, acheter un tableau, dans différents pays d'Europe. Rien d'extraordinaire. Mais quel peut bien être le rapport entre la mission en Espagne et les bandes enregistrées de l'interview qui semblent intéresser beaucoup de monde? Gabriel comprend peu à peu qu'il est devenu l'idiot utile d'un jeu dont il ignore les règles, un pion dans une partie qu'il dépasse. Et c'est ce qui fait tout le charme du livre. Notre héros n'est pas un espion professionnel. Cet espion, malgré lui, est un homme ordinaire, intelligent, mais parfois naïf, qui se laisse entraîner par curiosité, par goût de l'aventure, et aussi par fascination pour cette femme aussi séduisante qu'énigmatique, dont il ne sait rien refuser. Puis il tente de comprendre ce qui lui arrive, et plus il s'enfonce dans un univers de manipulation, de faux-semblants et de double jeu. Ce néophyte a une capacité d'adaptation à des situations hors du commun, des plus étonnantes, ce qui lui permet de sauver sa peau. Parallèlement, il mène une autre enquête, plus intime, concernant son propre passé. Depuis l'enfance, il est hanté par l'incendie qui a coûté la vie à sa mère. Ses insomnies et ses séances de psychanalyse donnent au récit une profondeur qui dépasse largement le simple récit d'apprentissage, d'espionnage. William Boyd nous emmène du Congo à l'Espagne, de Londres à Varsovie, sur fond de guerre froide, de crise internationale et de rivalité entre services secrets. Mais contrairement aux thrillers d'espionnage plus nerveux, il privilégie l'atmosphère, les personnages et l'ironie aussi. William Boyd a ce talent rare, raconter des histoires complexes avec une élégance et une légèreté réjouissantes. Chaque page donne envie de poursuivre le voyage avec un plaisir constant. Et d'ailleurs, il me presse de retrouver très vite Gabriel Dax dans la suite de ses aventures, puisqu'un prochain volume devrait bientôt sortir.
Le rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Un dernier livre maintenant, on va partir au Canada avec le Baignade. La Québécoise Andrea Michaud revient avec ce nouveau roman noir. Et une fois encore, elle prouve à quel point elle excelle à faire naître l'angoisse à partir d'un décor en apparence paisible. Le titre pourrait évoquer les vacances, l'été, les plongeons dans un lac, mais il faut s'en méfier. Baignade, c'est au pluriel. Parce que le roman se construit en deux parties qui se répondent. Deux séjours au bord de l'eau, deux cadres idylliques entourés de forêts, et deux descentes progressives dans la violence. Chez Andrea Michaud, le décor n'est jamais un simple arrière-plan. La forêt, surtout, devient un personnage à part entière. Une forêt opaque, nocturne, traversée de bruits indistincts. Elle réveille des peurs anciennes, presque celles des contes. Dans la première partie, on suit Max, Laurence et leur petite fille Charlie, 5 ans. Ils arrivent dans un camping paradisiaque au bord d'un lac magnifique. Mais tout bascule très vite. Leur fille se baigne nue et le propriétaire intervient brutalement. La tension monte d'un coup. Dès lors, chaque réaction aggrave la situation. Une succession de mauvais choix entraîne les personnages dans une spirale inquiétante jusqu'au drame. La seconde partie se déroule 4 ans plus tard au bord d'un autre lac. Laurence et sa fille retrouvent la famille pour la fête de la Saint-Jean. Là encore, tout semble lumineux au départ. Et là encore, le malaise s'installe, les tensions familiales, les souvenirs enfouis, les rancœurs silencieuses. Andrea Michaud démonte avec finesse le mécanisme qui mène au basculement. Mais ce qui la fascine surtout, c'est la violence ordinaire. Ces personnages ne sont pas des monstres, ce sont des gens, comme tout le monde, poussés dans leur retranchement. Elle s'interroge sur ce moment précis où l'on franchit une limite irréversible. Et elle a une formidable maîtrise du suspense. Elle entretient le doute en permanence, brouille les frontières entre réalité et cauchemar, et fait monter la tension lentement. Et puis il y a son écriture, extrêmement précise, tendue, presque poétique parfois. Une prose qui retient le lecteur jusqu'à la dernière page. À lire si vous aimez les romans noirs, denses, inquiétants et profonds.
Alors moi j'adore les baignades en général, mais là je t'avoue que la baignade donne un peu moins envie, même si bon, je pense qu'il n'y a pas de meurtre. Mais...
non, mais si on aime bien angoisser en lisant, c'est un roman très très bien écrit, et vraiment très bien.
Donc à lire sur une plage avec la forêt derrière, si j'ai bien compris.
À lire partout.
À lire partout.
Et maintenant, on va écouter de la musique avec le tout dernier titre de Iris Koshleff, « Je te vois ».
Et même si ta vie est dure et tes parents pas très fiers, aujourd'hui j'admire tout ton courage. Tu parais vivante, tu marches droit devant, si tu peines, je t'attends. Je vois une porte en toi, un endroit. je vois. Dois gravir les sommets de tes peurs, traverse le lac de larmes, de lave, de douleur. Non, je ne veux pas partir, juste entrouvrir ta porte pour te découvrir. Je vois une porte en toi, un endroit où tu trouveras ta voix, celle que tu crois te portera, t'allégera. Je vois, ah, je vois, je te vois.
On vient d'écouter le dernier titre d'Iris Koshleff, Je te vois. Alors Iris, on t'a déjà reçu dans cette émission il y a 2 ans maintenant. C'était en septembre 2024 pour Les Rois se meurent, avec l'album Fellini Circus Girl, avec Paper Moon. Et là, aujourd'hui, on te reçoit pour un nouveau projet solo.
Absolument. Bonjour Anne, bonjour Jessie. Je suis ravie d'être là pour une nouvelle aventure. C'est un nouveau projet qui s'offre à moi, qui m'a un moment vraiment happée. Je me suis dit, ça y est, c'est le moment de faire sortir toutes ces chansons qui sont dans mes tiroirs et qui, pour l'instant, n'ont pas de public puisque je ne les chante à personne. Même mon amoureux n'était pas au courant de tous ces textes.
Wow. C'est-à-dire qu'elles sortent du tiroir, c'est-à-dire que certaines, tu les as écrites il y a longtemps ?
J'ai vraiment commencé à écrire il y a 15 ans. Et au fur et à mesure, elles ont pris forme et elles ont vraiment pris leur forme aujourd'hui définitive dans l'album depuis quelques mois où j'ai retravaillé toutes les chansons. Avant, j'en avais certaines qui étaient écrites en anglais et aujourd'hui, j'avais plus envie de me planquer derrière une langue qui n'est pas la mienne. Donc j'ai traduit certains textes. Et j'ai eu envie d'arrêter de me planquer derrière les écritures d'autres personnes parce que ça fait des années que je chante mais les chansons des autres et là ça y est j'étais assez grande ça y est pour chanter les miennes.
Et tu as mis beaucoup de toi dans ces textes, c'est assez intime.
J'ai mis que de moi et de ce que je vis avec les autres autour. Forcément, il y a des expériences et tout au long de l'album, il y a les gens qui m'entourent et que j'aime et des réflexions aussi autour de ma vie de femme, ma vie de maman. Mais c'est forcément assez inspiré de ce que je vis. Je ne raconte pas les histoires de gens qui ne sont pas moi. C'est vrai que les chansons sont toujours empreintes de mots qui me plaisent. J'essaie de mettre de la poésie et des images assez parlantes qui pourraient être plus universelles, mais ça parle de moi.
La base, c'est ça.
Ouais.
Ok.
Et pour la musique, est-ce que c'est toi qui as composé ou tu t'es fait accompagner ?
J'ai tout composé. Et sur les enregistrements, j'ai été aidée par des amis, notamment les guitaristes. Sur scène, je joue de la guitare, mais ça n'est pas mon instrument de prédilection. Donc, j'ai laissé ça à des doigts plus experts. Donc, j'ai mon ami Alexis Doche qui est venu faire des guitares sur Je te vois. Sur d'autres chansons, Charles, mon amoureux, est venu aussi poser ses guitares. Bertrand Allôme, qui fait la production du disque dans son label, ici Label, a fait des basses. Enfin, voilà. J'ai été aidée sur l'album, mais par contre, les compositions viennent toutes de moi.
Donc ça reste un travail d'équipe sur scène avec les mêmes personnes à peu près qu'avec Paper Moon ?
Eh bien non, je suis toute seule sur scène. Je suis toute seule et je fais tout toute seule. Donc j'ai mis en place tout un petit setup avec... j'ai un clavier, j'ai une guitare, ukulélé et j'ai surtout un looper qui me permet de faire des boucles de voix, faire... alors j'utilise pas de boîte à rythme, mais j'ai un drum pad, c'est un espèce de petit pad où j'ai des samples de batterie que je fais, donc que je joue et que je loupe, et puis je fais des petits beatbox aussi pour étoffer le set. Mais j'avais vraiment cette envie d'être plus légère qu'avec un groupe où j'ai d'autres projets où, voilà, à chaque fois qu'on a des concerts qui arrivent, il faut que tout le monde soit dispo, que tout le monde soit à l'heure. Bon, alors évidemment, les amis sont à l'heure, mais en tout cas, pas toujours dispo. Donc, des fois, on se retrouve un peu face à bon, bah non, c'est pas possible. Là, j'avais envie d'être plus légère. Et puis, portant mes textes, portant mes chansons, j'avais pas envie de faire tellement de concessions, je crois. J'avais envie d'exprimer exactement ce que je voulais sans avoir forcément. Un gars qui me dit « Tiens, on ferait plutôt ça comme ci ou comme ça. » Et d'un côté, il y a une façon de me mettre un peu plus en danger, si on peut appeler ça du danger. C'est que là, je suis toute seule à porter mes chansons sans pouvoir me planquer. Voilà, je crois que j'avais plus envie de pouvoir ni m'appuyer sur personne, donc voir ce que ça allait donner, ni devoir composer.
Et du coup, tu te transformes en femme orchestre.
Absolument.
C'est un peu ça l'image que j'ai là, du coup, en t'écoutant.
Voilà, donc je suis un peu partout. J'ai les pieds occupés, les mains occupées et la formule fonctionne bien. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à chanter sur scène avec cette formule qui est toute petite. Donc je peux faire ça dans tout un tas d'endroits. J'ai fait des concerts dans des appartements, mais ça peut être sur une scène plus importante, c'est très nomade et facile d'accès.
Donc là, le titre « Je te vois » est déjà paru. Et quand sort l'album ?
Alors l'album, se fait attendre. Je vais sortir des singles à peu près tous les deux mois. Là, le prochain arrive le 26 juin, ensuite ça sera en septembre. Et vraiment l'album en physique, il est dans les cartons, tout est presque terminé, on a la pochette à finaliser. Et ça, je vais le publier le plus vite possible pour pouvoir en vendre à la fin des concerts avoir ce bel objet quand même qui va cristalliser les chansons. Mais sur les plateformes, ça va attendre un petit peu plus, je pense, plutôt au printemps prochain.
Eh bien, on va écouter en avant-première le nouveau titre « Halo de la lune ».
Qui n'est paru nulle part.
Tu es le halo de la lune, ça n'éclaire pas, c'est juste beau. Tu es le halo de la lune et tu sublimes le déjà beau. C'est juste comme ça, t'es beau comme ça. Tu ne cherches pas un autre que toi. Non, tu n'es pas parfait, crois-moi. Mais tu es là. Juste beau. Tu es le halo de la lune et tu sublimes le déjà beau. T'es beau comme ça, tu te racontes pas, tu ne cherches pas les regards sur toi. Je sais pas faire ça, mon juge est là, il me lâche pas. Sur la dune, on était seuls mais ensemble. Et si tous les deux sur la lune, on s'en offrait des gestes tendres. Oui, embrasse-moi, caresse mes bras, chatouille mes doigts, explore-moi, vas-y, lance-toi, confiance en moi, confiance en toi. Quelle chance on a. de la lune, ça n'éclaire pas, c'est juste beau. Tu es le halo de la lune et tu sublimes le déjà beau. C'est doux comme ça, oui, répare-moi de ci, de là.
C'était Halo de la Lune, le dernier titre d'Irit Koshlev, en grande avant-première puisqu'il sortira sur les plateformes le 26 juin. Un très beau titre, merci Iris. Et du coup, tes prochains concerts, si on veut venir t'écouter en direct?
Eh bien, c'est demain. Demain, je chante au Franport, à côté de Choisy-au-Bac, au 1523. Et c'est un concert dans un jardin où on vient avec son plaid et où on écoute de la musique et après on partage un apéro partagé. Voilà, c'est le côté que j'aime dans la musique où on peut passer du temps et...
Très convivial.
Exactement.
Et très chaleureux.
Je l'espère.
Ben merci beaucoup Iris, on était vraiment ravis de te recevoir.
Merci Anne.
Et on te souhaite beaucoup de succès avec tous ces beaux titres et l'album qui sortira prochainement.
Merci beaucoup.
Eh bien, on arrive à la fin de cette émission. Pour les événements, les espaces Cyberbase vous proposent une conférence IA et esprit critique animée par Camille Perrault. L'IA peut-elle nous mentir? Sommes-nous vraiment capables de distinguer le vrai du faux à l'ère des deepfakes et des algorithmes? Avec au programme un quiz interactif, IA ou pas IA, décryptage des biais cognitifs, des exemples concrets d'arnaques et de fake news, des outils pratiques de fact-checking et les réflexes pour garder la tête froide face à l'IA. Tout ça, c'est demain, samedi 13 juin à 14h30 à la bibliothèque Saint-Corneille. Et cette conférence sera suivie à 17h par un café philo des petits socratiques. Le débat philosophique portera sur la qualité de l'intelligence naturelle face à la quantité du renseignement artificiel. Et à partir du 21 juin, jour de la fête de la musique, aura lieu le Festival des Forêts avec deux concerts exceptionnels dans le cloître de la bibliothèque dont Jessie va nous parler.
Et oui, cette année encore, on reçoit le Festival des Forêts. Et le thème, j'adore, les saisons. Mais attention, sans Vivaldi. Oui, oui, ils ont osé. Alors, je vais vous parler d'un gros temps fort, assez exceptionnel autour de la création récente de Thierry Sketch, un Tédéum monumental pour célébrer la réouverture de Notre-Dame de Paris. Rien que ça. Donc le concert aura lieu le 26 juin au Théâtre Impérial avec 185 musiciens et choristes. Rien que ça. Mais avant ce Tédéum, nous aurons l'occasion de recevoir Thierry Sketch, le compositeur, dans la bibliothèque Saint-Corneille pour une rencontre. Et vous pourrez lui poser plein de questions, puisque du coup, avec ce Tédéum, il est un petit peu rentré dans l'histoire. Et d'ailleurs, un petit peu avant, le 20 juin, il y aura la projection du documentaire réalisé par France Télévisions pour justement parler de la réouverture non seulement de la cathédrale, mais aussi de la composition de ce chef-d'œuvre. Et après, il y aura un autre événement, qui est le Quatuor Hermès, qui va jouer dans le jardin du cloître, à la tombée de la nuit, avec une lumière extraordinaire, une acoustique à couper le souffle. Et surtout, une chose extraordinaire, c'est qu'on a un jardin qui est un peu habité par des oiseaux, qui s'amusent à répondre à nos musiciens. Donc voilà, là, je vous parle de deux petits événements, mais il y en a plein d'autres à la bibliothèque, il y en a surtout plein d'autres pendant toute la programmation. Donc n'hésitez pas à venir sur les réseaux ou sur le site du Festival des Forêts pour vous renseigner, réserver vos places, parce que ça part très vite.
Et les deux concerts à la bibliothèque, il faut réserver aussi. C'est payant ou c'est...
Alors, celui du Quatuor Hermès, oui, mais celui des étudiants de l'UTC, lui, il en a accès libre. Voilà.
D'accord, donc c'est bon à savoir, c'est vraiment accessible à tout le monde.
C'est ça, il y en a pour tous les goûts.
Et ça sera suivi donc le samedi 4 juillet à 14h30. Un club Fab Lab te propose de créer ton propre puzzle personnalisé. Tu amènes ta photo et puis on en fait un puzzle. Le 11 juillet à 14h, jeu en bib pour venir jouer en famille ou entre amis. Et enfin, retrouvez-nous pour notre prochaine apéro culture dans une semaine, vendredi 19 juin, à la bibliothèque Saint-Corneille, à 18h. Et pour notre prochaine émission sur Graphite, à la rentrée, le vendredi 18 septembre, à 18h. D'ici là, on vous souhaite un très très bel été. Merci beaucoup Iris et Jessie.
Merci à toi.
Et passez un bel été aussi.
Salut.
À bientôt, au revoir.